Notre invité Jacques Meuran s'est penché sur le pacifisme de Jean Giono.
Ce n'est pas la première fois qu'il consacre un temps de travail à Jean Giono et le pacifisme. Il y a déjà un ouvrage qui était paru aux éditions Parole, mais cette fois-ci, on passe de la période 1934 à 1940 pour le premier ouvrage. On est toujours dans Jean Giono et le pacifisme, mais on va jusqu'en 1944, autrement dit, c'est la période du Contadour jusqu'à la fin de la guerre. J'ai grand plaisir d'accueillir Jacques Meuran. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous avez écrit ce livre où on apprend beaucoup de choses, même quand on connaît assez bien Jean Giono, ici même à Manosque notamment. On s'aperçoit qu'effectivement, l'auteur de Regain, entre autres, était un grand pacifiste et qu'il a initier ces grandes rencontres au Contadour.
Oui, alors la rencontre, la première de 1935, de septembre 1935, est très intéressante parce que ce que j'ai découvert et que j'ai développé, c'est que Giono, qui est un pacifiste lié à ce qu'il a connu, à l'horreur de la Première Guerre mondiale, Giono va avoir le souhait de créer un mouvement pacifiste. Et le Contadour, pour lui, qu'il prépare un an à l'avance, c'est Henri Flucher, un de ses meilleurs amis, qui nous l'explique, Giono va souhaiter se servir de ces jeunes gens qu'il adule, qu'il aime, qu'il apprécie, et il va les inviter à venir faire une randonnée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Giono va user d'une certaine duplicité, parce qu'il va commencer par les inviter à venir visiter la Provence, c'est-à-dire aller jusqu'à la montagne de Lure, et le 1er septembre 1935, lorsque ces 45-50 jeunes gens, jeunes filles, partiront de Manosque, ils n'iront jamais à la montagne de Lure, ils iront dans un endroit que Giono a repéré, qui est le Contadour, ce hameau qui dépend du petit village de Redortier.
Tout ça est expliqué évidemment et carte à l'appui dans votre livre, Jacques. Ce qu'il faut bien imaginer à cette période-là, c'est que les anciens combattants qui ont vécu 14-18, vous le disiez, ce traumatisme terrible qui a suivi Giono jusqu'à la fin de sa vie, hein, comme beaucoup d'anciens combattants, Giono disait plutôt plus jamais combattant, plutôt qu'ancien combattant. Et ça n'était pas du goût de beaucoup d'autres personnes, et malheureusement les années qui ont suivi, après 38, 39 et évidemment 40, l'ont prouvé. Donc c'est vrai que ce pacifisme chevillé au corps de Jean Giono a été un moteur pour lui dans ces années-là.
Oui, il en a même, j'oserais dire, oublié sa fonction réelle, cette fonction de romancier, parce qu'il s'est lancé, après avoir abandonné l'idée de créer ce mouvement pacifiste, il a très rapidement laissé de côté cela. C'est à la fin de 1935, dès 1936, qu'il se lance dans une seconde tentative qui sera, non pas abandonner celle-là, mais qui conduira à l'écriture de nombreux textes politiques pacifistes qui commencent d'ailleurs bien avant 1936 avec « Je refuse d'obéir » qui sera publié à nouveau sous le titre « Refus d'obéissance », ce qui est clair. Et puis une série d'œuvres où il y a une progression dans l'écriture de Giono qui va aboutir à l'œuvre achevée qui est la « Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix ». Et dans ces documents, moi qui ne suis pas un littéraire, j'ai pu découvrir ce que les enseignants de sciences politiques appellent une véritable théorie politique pacifiste.
Et ce sont des livres qui sont encore d'actualité. Quand on parle de décroissance, la lettre aux paysans dont vous faisiez référence est toujours citée. Refus d'obéissance comme par exemple Rondeur des jours ou alors d'autres ouvrages qu'a écrit Journaud et qui sont à la fois poétiques et en même temps très politiques. Recherche de la pureté par exemple aussi. Ce sont des pages magnifiques. Il faut bien plus de courage pour être pacifiste que pour être un guerrier, dit-il dans Refus d'obéissance par exemple. De mémoire. Et c'est vrai qu'il a voulu aussi, à cette période, créer son propre parti politique.
Oui. Et lorsque j'ai énoncé cette thèse, cette pensée, elle a été critiquée, mais j'ai obtenu une consécration avec un travail qui a été réalisé par un professeur qui était déjà agrégé et qui est maintenant docteur, qui est Édouard Schalchly, qui reconnaît que ma démonstration est parfaitement convaincante. Donc, premier temps, construction d'un mouvement politique, le Contadour, mais Giono abandonne et le Contadour se poursuit un peu malgré lui ou sans lui, très souvent. Et puis, il y a la découverte ou la rencontre avec une femme qui s'appelle, curieusement, Hélène Laguerre. Hélène Laguerre qui va croire en lui en tant que créateur d'une véritable théorie politique. Et cette théorie politique, chez Giono, elle commence par une révolution cruelle, mais non pas une révolution marxiste, mais avec une autre classe sociale, la classe des paysans. Giono leur dit aux paysans, je sais que vous souhaitez une révolution cruelle, je suis totalement d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec vos plus terribles cruautés.
C'est donc un paradoxe avec son pacifisme.
Oui, incroyable. Donc le pacifisme de Giono, la théorie, commence par une destruction totale, destruction des militaires, destruction de la classe ouvrière, destruction des usines d'armement, etc., de tout ce qui existe, et destruction de Paris. Il dit aux Parisiens, comme s'il était à la tête de cette armée de paysans, « Nous ne venons pas pour te piller, nous venons pour te détruire. » Et tout cela, on peut dire qu'il le fait, et Pierre Magnan l'a dit tout à fait correctement, il le fait parce qu'il est influencé, il est poussé par Hélène Laguerre, qui veut en faire le grand penseur pacifiste du XXe siècle. Et ça, c'est cette première partie qui m'a profondément intéressé et qui lui fait, à mon avis, oublier sa mission première de romancier, puisque un seul roman sera publié en 1937. Il s'agit de Bataille dans la montagne, qui est l'apogée de ce qu'on appelle la première manière. Alors que précédemment, il y a 6, 7, 8, une dizaine de textes gioniens, des grands romans, qui sont des romans magnifiques et qui ont fait de lui un romancier notoirement connu en France et à l'étranger, en Allemagne et aux États-Unis et ailleurs.
On reparlera dans un instant d'Hélène Laguerre, si vous voulez bien, et des femmes qui ont vécu autour et avec Jean Giono. Revenons à cette période très particulière, 1940-1944, ce qui manquait dans votre précédent ouvrage, évidemment c'est la guerre, et Giono va camper pendant un moment sur son pacifisme forcené, mais pas toujours.
Non. Alors, ce qui a été une découverte, et nous la devons à une personne qui est devenue une amie, qui est Annick Stevenson, ce qui caractérise cette personne, cette période, c'est le fait que Jean Giono va abandonner sa relation avec Hélène, la guerre, mais va devenir, alors là, cette fois-ci, un amoureux fou. On ne peut pas dire autre chose. Il est emporté par une passion, je dirais presque délirante, pour la femme du notaire de Manosque qui s'appelle Blanche Meyer. Je donne simplement une information complémentaire. Aux États-Unis, dans la librairie de l'université, en anglais library, mais en français
la bibliothèque,
dans la bibliothèque de l'université de Yale, on retrouve 3300 pages d'écriture, manuscrits donc, de Giono, qui sont les lettres qu'il a envoyées à Blanche. Or, pendant la période que j'étudie, 1940-1944, il y a un peu plus d'un tiers de ces lettres qui sont envoyées à cette femme et qui ont été donc conservées. Et cela explique, cela montre à quel point il est occupé par cette passion que j'ai dite délirante.
Un ouvrage est paru il y a quelques années d'ailleurs sur ces correspondances entre Jean Giono et Blanche Meyer qui a fait beaucoup de bruit évidemment parce que il y a eu pendant, on va dire, presque un demi-siècle ici même à Manosque une omerta complète sur les liaisons de Jean Giono, pas des liaisons dangereuses d'ailleurs, ce sont des liaisons classiques d'un homme de pouvoir avec des jeunes femmes et des jeunes filles très intelligentes d'ailleurs, très instruites. Avec il y a dans votre livre d'ailleurs un très très beau portrait de Blanche Meyer qui a été dressé par votre ami Pierre Magnan, et c'est magnifique ce qu'a écrit Pierre Magnan, qui était tout émoustillé quand il était adolescent, il a rencontré la première fois Blanche Meyer, il s'en souvenait 50 ans après comme si c'était la veille.
Oui. C'est vrai, Pierre Magnan en a parlé d'une manière retenue, puisque c'était l'époque où on ne pouvait pas parler de Blanche Meyer. Moi-même, pendant des dizaines et des dizaines d'années, depuis la mort de Jean Giono en 1970 jusqu'à la publication de cet ouvrage, j'ignorais totalement cette vie amoureuse de Giono, cette vie hors mariage. Et c'est vrai que Pierre Magnan écrit qu'il dit de cette femme, la première fois qu'il l'a vue, flexible, elle lui apparaît comme un personnage flexible. Et il dit, c'est cette image que je garderai jusqu'à l'éternité de ma vie. C'est magnifique. Et puis, dans un texte qu'il devait publier, mais qui ne sera jamais, qui s'intitulait « Les jardins d'Armide », Pierre Magnan voulait écrire toute cette rencontre de Giono avec Blanche Meyer. Alors Blanche Meyer, c'est peut-être un peu trop fort de ma part de penser cela, mais je crois que si Giono a commis de graves erreurs pendant la période de guerre, il l'a fait parce qu'il était obnubilé par cette femme. Vous voyez ? Et les exemples sont fréquents.
Oui, ils sont bien développés également dans votre ouvrage. En même temps, c'était une période particulière, 1940-1944. Giono se retrouve interné deux fois. Il publie dans des publications qui sont pas franchement fréquentables. Il véhicule un antisémitisme qui était l'antisémitisme de l'époque, hein, qui est partagé par beaucoup de personnes, malheureusement, mais qui aujourd'hui font un peu mal au ventre. Et surtout, vous l'avez dit, il arrête d'écrire quasiment. Il arrête et puis il est follement amoureux. Il est aussi toujours amoureux de son épouse, Élise, de ses filles, qui sont toutes jeunes. Et donc, il a cette double vie particulière. Et quand on dit voyageur immobile, est-ce qu'on se fourre pas un petit peu le doigt dans l'œil ?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre propos. Très simplement, pour moi, le voyageur immobile voyageait beaucoup. Et on a notamment des traces je vais donner deux exemples. Tout d'abord, il va visiter, dans cette période, la Drôme, parce que Blanche Meyer est née dans la Drôme, donc il veut savoir ce qu'est ce village dans lequel elle est née. Ça, c'est une première chose, mais c'est ponctuel. Et puis, il est à Paris, et il y a des voyages à Paris qui durent plusieurs semaines. Et la raison, c'est tout simplement que Blanche Meyer le rejoint à Paris, comme elle le rejoint d'ailleurs sur la Côte d'Azur, etc. Et ça, c'est effectivement un élément important de constater que Jean Giono n'est pas aussi mobile qu'on le dit.
Ça n'a rien de littéraire d'ailleurs, mobilité. Non. Et donc, et on apprend beaucoup de choses dans votre livre. On apprend aussi qu'il peut être extrêmement cruel, extrêmement direct dans ses mots, évidemment. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il voulait détruire Paris, hein, en tant que pacifiste, c'est assez étonnant. Il a écrit sur le fils d'Hélène Laguerre, qui était résistant et qui était interné en Allemagne, c'est ça ?
Alors, il y a deux choses. La relation avec Hélène Laguerre s'achève en 1938, début 1938. Hélène sera remplacée, donc c'est ce qu'il écrit dans son journal, elle sera remplacée par Blanche. Mais Hélène garde une relation épistolaire avec Giono. Il se trouve qu'elle a un fils qui a 20 ans, qui en 1943 est arrêté à Grenoble parce qu'il est résistant. Hélène envoie sa fille, Jacqueline, que j'ai connue, elle l'envoie à Manosque pour demander à Giono, qui est bien vu des gens en place, et qui est bien vu aussi, il faut bien le reconnaître, des membres de la Gestapo qui se trouvent à Marseille. Il interviendra d'ailleurs. Donc, Jacqueline, la fille d'Hélène, vient à Manosque et elle vient plaider pour son frère. Et si vous voulez, je peux vous lire ce qui est public, hein, ça n'est pas une invention de ma part, ce qu'il dit de cette visite.
Je vous en prie.
Jacqueline vient me voir. Son frère, arrêté à Grenoble par la police allemande, va, me dit-elle, sans doute être fusillé. Ce petit Alain est le plus grand imbécile que j'ai jamais rencontré. Je demande ce qu'il a fait. Regarde, héroïne. Oh, comme tout cela a l'air composé. Bande de petits gens foutres. Alain, toi et ta sœur, petite putain, et petit paresseux sans caractère ni valeur. Voilà exactement ce que c'est que cette comédie. Que venez-vous gémir? Les Allemands aussi passent à l'action? De quoi vous plaignez-vous? Jean Giono, malgré cette diatribe, interviendra, notamment auprès de Monterland, mais le petit Alain de 20 ans ne sera jamais libéré et il mourra en camp de concentration.
Donc on est là dans le principe de réalité, hélas, et il était dans l'invective, Jean Giono. C'est assez curieux d'ailleurs pour l'auteur de Colline, par exemple, d'écrire des choses pareilles, aussi directes, aussi franches, et donc il y a du ressentiment personnel. On sent que il y a... Alors, dans votre ouvrage, Jacques, on apprend beaucoup de choses sur Jean Giono. Inutile de dire qu'il y a quelques années, ici même à Manosque, dans une radio, d'abord une radio n'existait pas à Manosque, mais on n'aurait pas pu parler, on n'aurait pas pu avoir cette conversation. Je serais très heureux de pouvoir avoir cette conversation aujourd'hui avec vous et de lever le voile sur certaines actions de Jean Giono et sur certaines... Ça n'enlève rien son mérite littéraire, il ne faut pas non plus exagérer. Au contraire, peut-être même que ça rajoute au romanesque du personnage. Jacques, votre actualité, c'est une signature samedi à Digne.
Alors, samedi à Digne, oui, et puis ensuite, je suis invité dans divers endroits, jusqu'à hier, très bientôt, pour donner une conférence, puisque j'en ai déjà donné beaucoup, et ce sera l'occasion, au cours de cette conférence, de présenter cet ouvrage, puisque le sujet de la conférence, c'est Jean Giono et le pacifisme.
À quel endroit vous signez, samedi ?
Alors, samedi, c'est à la Maison de la Presse, boulevard Gassendi à Digne, et hier, ce sera à l'Université du Temps Disponible, et puis j'ai d'autres rencontres. Mon éditeur est invité par la librairie Goulard, à Aix-en-Provence, et puis ensuite ce sera Banon, le Bleuet, pour la fête du fromage.
Et là vous allez parler du Contador, évidemment. Et
bien évidemment, bien évidemment.
Merci beaucoup Jacques Meurant d'être venu pour parler de Jean Giono et le pacifisme, c'est votre dernier ouvrage paru aux éditions Parole, et puis... Parole, vous reviendrez pour parler de votre actualité également, et évidemment de vos signatures, n'hésitez pas.
Merci beaucoup à vous.